Pour la saison 2 du balado, Christelle et Lucille ouvrent leur micro à des experts ou à des spécialistes en éducation.
Au programme, échanges, partages et discussions autour de l'intervention et de l'évaluation des apprenants en difficulté. Suivez-nous sur notre page Instagram.
Bonne écoute! Dans cet épisode, nous ouvrons notre micro à Anne Laffey, orthophoniste et professeure adjointe en psychologie au laboratoire de psychologie et neurocognition à l'Université Savoie-Mont-Blanc. Nous sommes honorés de recevoir des experts et des expertes comme notre invitée. Aujourd'hui, nous allons parler des mathématiques et plus particulièrement de la résolution de problèmes. Comme orthopédagogue, il peut nous arriver d'intervenir auprès d'une ou d'un élève lors des situations de problèmes. Et alors, sur quel processus ou concept intervenir? Bonjour Anne.
Bonjour Lucille.
Alors, nous allons commencer cet épisode. J'ai très hâte parce que j'ai beaucoup de questions par rapport aux résolutions de problèmes. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça implique en fait sur le plan cognitif quand on travaille la résolution de problèmes?
Alors, la résolution de problèmes, c'est un concept cognitif déjà qui est complexe, où il y a beaucoup de choses qui sont impliquées. Et pour vous parler de la résolution de problèmes, je vais me baser sur des auteurs, des chercheurs qui ont travaillé sur le sujet, et donc notamment Alain Ménissier, qui a publié en 2011 le modèle de Nathan en 92 et le modèle de compréhension de lecture de Kinch en 98. Donc, premièrement, il faut lire ou écouter l'énoncé de problème. Donc, ça nécessite d'avoir des compétences d'analyse linguistique. Après avoir lu et avoir écouté, on a besoin de comprendre l'énoncé. Et donc, comprendre l'énoncé, ça veut dire comprendre les mots un à un, comprendre les phrases, c'est-à-dire les mots les uns avec les autres, comprendre le texte, donc la cohésion du texte, faire du lien les phrases avec les phrases, par exemple lorsqu'il y a un pronom, savoir à qui réfère ce pronom, et puis faire du lien entre ce texte et des choses qui ne sont pas dites explicitement dans le texte, pour avoir une cohérence globale. Donc, c'est des processus d'inférence qu'on doit faire en fonction de nos connaissances qu'on a antérieurement à la lecture ou à l'écoute de ce problème. Une fois que j'ai compris les énoncés ou l'énoncé qu'on me propose, il faut que j'en ai une représentation mentale. Donc, c'est ce qu'on va appeler le modèle mental. Donc, je vais extraire la structure mathématique. Puis finalement, je n'ai plus vraiment besoin de savoir si mon problème, il parle de forêt ou de plage, de Charlotte ou de Mohamed, mais j'ai besoin de me représenter les quantités et la structure mathématique. Une fois que je me suis représenté ce problème, mathématiquement parlant, j'ai besoin de planifier des actions. On va souvent penser à un calcul, parce que scolairement, c'est souvent ce qu'on nous demande, mais ça peut tout à fait être d'autres actions, comme faire un dessin, manipuler des objets, etc. Et ensuite, je vais réaliser ces actions. Je peux avoir l'idée de faire une action et pour autant ne pas réussir à la faire. Et enfin, vérifier que mon résultat, il est cohérent avec l'histoire que j'ai compris au départ. Donc, il y a tout un tas d'étapes, comme vous le voyez. Évidemment, moi, je les découpe parce que dans les modèles, ces étapes ont été décrites successivement. Mais quand on résout un problème, il y a tout un tas de choses qui vont se faire de manière parallèle et ne serait-ce que la compréhension de l'énoncé où on ne se dit pas de manière consciente « Oh, je vais comprendre les mots, puis maintenant, je vais comprendre les phrases. » C'est des processus qu'on va faire de manière parallèle.
Et du coup, quelles sont les difficultés que nos élèves peuvent rencontrer dans toutes ces manipulations-là?
Ben finalement, les élèves peuvent avoir des difficultés à chacune de ces étapes. Je vais vous donner quelques exemples et ce ne sera pas forcément exhaustif. Mais prenons la première étape, lire un énoncé. Si je suis face à un enfant qui a des difficultés de décodage, type dyslexie, ben si on lui présente le problème à l'écrit, il va avoir des difficultés à résoudre le problème. Est-ce que c'est une difficulté mathématique? Peut-être pas, puisque c'est simplement, ou ça peut être simplement une conséquence de « j'ai pas réussi à décoder le problème, donc je peux pas faire la suite ». De la même manière, si j'ai un jeune qui a des troubles des sons de la parole, donc des difficultés à analyser l'input verbal, si on lui présente oralement, il peut avoir loupé des informations du type l'enfant dort, les enfants dorment, le petit me qui est très rapide dans la phrase et qui fait que l'enfant ne va pas forcément l'entendre, alors pas auditivement, mais le percevoir linguistiquement. Si je suis face à un jeune qui a des difficultés de langage, comme un jeune qui a un trouble du langage, au niveau lexical, au niveau syntaxique, ben, il va avoir des difficultés à comprendre l'énoncé, même s'il l'a bien décodé ou bien entendu. Si je suis face à un jeune qui a une pauvreté des ressources, des connaissances antérieures, donc par exemple qu'il a été peu stimulé sur la résolution de problèmes, ben, il en a moins rencontré et ça peut être plus difficile de recourir à des connaissances antérieures, c'est-à-dire des problèmes que j'ai résolus précédemment. On peut avoir des difficultés également à extraire la structure mathématique et en particulier ce sont les enfants qui vont avoir des difficultés à se représenter les choses et en particulier les enfants qui ont une dyscalculie, qui ont des difficultés à se représenter les quantité, ben, ils vont avoir du mal à sortir du contexte. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de forêt, de plage, de Charlotte, de Mohamed, et pour se concentrer sur la quantité en tant que telle. On peut avoir également des difficultés à planifier les actions lorsque on est face à un jeune qui a des difficultés au niveau exécutif, comme des enfants qui auraient un TDAH. Les enfants qui ont une dyscalculie, donc qui ont un trouble du calcul en tant que tel, peuvent avoir des difficultés dans la réalisation des actions lorsque les actions, ce sont des calculs à réaliser. Donc, on peut avoir tout un tas de difficultés à toutes les étapes. Et donc, ça fait beaucoup d'enfants qui finalement peuvent avoir des difficultés en classe à résoudre des problèmes sans pour autant que ce soit dû à un trouble en tant que tel. Je m'explique, si je fais un problème avec des mots de vocabulaire qui ne sont pas de mon niveau, donc par exemple, j'utilise des mots de vocabulaire d'un enfant de 6e et je le propose à un enfant de 3e année, pas un enfant qui a un trouble, c'est juste un enfant qui a un niveau de vocabulaire normal, bah, il peut se retrouver être en difficulté dans cette résolution de problème au niveau lexical, mais pas à cause de lui, à cause du problème qui n'est pas... adapté. Donc finalement, on peut avoir des difficultés parce qu'on a des difficultés qui sont intrinsèquement liées à nous. Par exemple, j'ai des difficultés à comprendre les mots. Et ou parce que le problème, il n'est pas adapté à l'enfant à qui je le propose. Par exemple, les mots de vocabulaire ne sont pas de son niveau. Donc on a tout un tas de difficultés qui peuvent prendre des sources dans chacune de ces étapes.
Donc là, on est face à ces difficultés-là. Comme orthopédagogue, on travaille en petit groupe, en sous-groupe ou même en individuel. Est-ce qu'il y a des interventions qui sont plus efficaces avec ces élèves-là, tout en gardant en tête, bien sûr, que ça reste quelque chose de général et que plus on va être précis dans la source de notre difficulté, plus on va être personnalisé, j'imagine, notre intervention. Mais est-ce qu'il existe quand même des interventions qu'on peut plus faire, qui sont plus adéquates pour ces élèves-là?
Alors oui, on a quand même des choses dans la littérature qui ressortent maintenant. C'est certain qu'aujourd'hui, je ne suis pas moi en mesure de vous dire il faut faire telle intervention pour telle étape qui pose un problème ou telle intervention pour tel type d'enfant, exemple, trouble du langage, dyslexie, dyscalculie, etc. Par contre, quand on regarde la littérature, il y a des... ingrédients d'intervention qui semblent davantage fonctionner. La première des interventions dont je voudrais vous parler, c'est la Schema-Based Intervention, donc, qu'on voit souvent sous le nom de SBI, donc l'intervention, l'instruction basée sur les schémas. Et donc, cette méthode, la SBI, on a des revues de littérature maintenant, donc on accumule quand même plus qu'une ou deux études. Et ces revues de littérature, elles nous amènent à conclure que c'est des pratiques probantes pour les enfants qui ont un trouble d'apprentissage ou à tout le moins des difficultés en mathématiques et prometteuses pour les adolescents. prometteuse parce que tout simplement, on n'a pas accumulé suffisamment de données pour les adolescents. Alors, cette intervention, instruction basée sur les schémas, elle vient de travaux de Fuchs, de Powell, par exemple, donc des chercheuses qui ont beaucoup travaillé sur le sujet. Et elle consiste à représenter donc de manière externe, sur notre feuille, de manière non verbale, sous forme d'un schéma, l'énoncé de problème qui est présenté verbalement. Et donc, on va proposer des schémas qui vont être différents selon la structure des problèmes. Donc, je vous donne un exemple. Si je vous dis Charlotte a 4 billes, Mohamed lui donne 3 billes, combien Charlotte a-t-elle de billes? Je suis face à un problème dont la structure est dite additive et de transformation. J'ai les billes de Charlotte qui sont transformées par le fait que Mohamed lui donne des billes. Et si je vous donne un autre problème du type Charlotte a 4 billes, Mohamed a 3 billes de plus que Charlotte, combien Mohamed a-t-il de billes? Finalement, l'opération arithmétique est la même, 4 plus 3 pour les deux problèmes. Mais la structure mathématique du deuxième, c'est des problèmes additifs, mais cette fois de comparaison. La collection de billes de Charlotte n'est pas modifiée, celle de Mohamed n'est pas modifiée, mais on compare celle de Charlotte et celle de Mohamed. Et donc, il y a d'autres structures. Et il va y avoir un schéma par structure mathématique qu'on va apprendre aux élèves. Alors, pas forcément en termes de... On va pas leur parler de structure mathématique et on ne va pas leur parler de problèmes de comparaison, de transformation. Ce n'est pas forcément ces mots qui sont utilisés, mais on va leur apprendre à représenter ces problèmes, à identifier la structure du problème et à aller chercher le bon schéma. Et donc, cette méthode-là, elle a été démontrée comme étant efficace et ça permettrait ensuite aux enfants de davantage pouvoir placer les informations dans l'opération arithmétique. Donc, je m'explique, je reprends mon histoire de Charlotte et de Mohamed. Charlotte a 4 billes, Mohamed lui donne 3 billes, combien Charlotte a-t-elle de billes à la fin de la partie? J'ai une situation qui s'appelle la situation initiale, le début de l'histoire, c'est Charlotte qui a 4 billes. Donc, je peux le placer dans mon calcul, c'est 4. J'ai le changement ou la transformation, l'évolution, qui est le fait que Mohamed lui donne 3 billes, donc c'est plus 3. Et j'ai mon point d'interrogation qui est sur la situation finale, puisqu'on me demande combien Charlotte a la bille à la fin. Et donc, les enfants, ils vont avoir davantage de facilité à placer les différents éléments verbaux et donc numérique dans les différentes opérations en fonction de ces éléments. Situation initiale plus le changement égale situation finale. Donc ça a été démontré comme étant une méthode plutôt efficace. Et dans les dernières années, des travaux qui datent de 2020, si je ne me trompe pas, Powell, elle a rajouté une chose assez importante dans cette intervention qui était l'apprentissage des mots spécifiques au type de problème. Et j'insiste sur le fait que ce n'est pas du tout la méthode des mots-clés. Par exemple, tu as donne, tu fais une addition, tu as plus, tu fais une addition. C'est plutôt quand on a des mots comme donne ou perdre, on est sur des problèmes de changement, de transformation. Mais quand on a des mots comme plus, que, on compare des choses, donc on est sur des problèmes de comparaison. Donc l'apprentissage que Powell propose, c'est des mots pour référer à une structure, et pas des mots pour référer à une opération arithmétique. Et cet apprentissage des mots qui référerait davantage, parce que le langage il n'est jamais à 100% facile à analyser, mais qui référerait davantage à une structure, ça aiderait les enfants à identifier la structure et donc à déposer les informations numériques dans l'opération arithmétique correspondante.
Wow, c'est super intéressant. Et je sais que toi aussi, tu as fait des travaux là-dessus. Fait que, dans la barre des commentaires, on mettra les liens des recherches, etc. Et les recherches que toi aussi, tu as faites. Je trouve ça hyper intéressant et cette nouvelle perspective parce qu'effectivement, on se base beaucoup sur les mots-clés. Et là, tu apportes un nouvel élément et c'est sûr que je vais googler, etc. Je vais m'intéresser à ça. Il y a une autre aussi, il y en a d'autres interventions.
Donc, il y a une autre intervention dont je voulais vous parler, c'est la Cognitive Strategy Instruction, donc CSI, autrement dit l'instruction ou l'intervention basée sur les stratégies cognitives, qui est aussi démontrée comme étant une pratique probante pour les enfants et prometteuse pour les adolescents pour les mêmes raisons que la SBI. Cette Cognitive Strategy Instruction, elle a été développée par, alors je ne sais pas exactement comment ça se prononce, mais Hutchinson en 93. Alors cette approche CSI, pardon, elle consiste à permettre aux enfants de développer un questionnement, un auto-questionnement, pour qu'ils se représentent, non pas cette fois le problème, mais les étapes pour résoudre un problème. Et ça va rendre plus explicites les étapes, les processus par lesquels l'enfant doit passer pour passer de « je te donne l'énoncé » à « tu me donnes une réponse ». C'est souvent quelque chose qui est utilisé dans les classes quand même, sans que les enseignants aient tous conscience que ça réfère à cette méthode initialement. Mais c'est, quand même, c'est quelque chose de plutôt positif. Alors, concrètement, comment ça se manifeste? Ben, c'est des canevas ou des organisations écrites, alors soit sous forme verbale en mots et ou avec des pictogrammes, par exemple, pour dire à l'enfant, ben, qu'est-ce que tu fais au tout début quand je te donne l'énoncé? Ben, tu le lis ou tu l'écoutes. Ensuite, qu'est-ce que tu dois faire? Ben, je dois le comprendre. Et ensuite, je dois le représenter sur ma feuille en faisant un dessin ou en me disant de quoi ça parle, le comprendre avec mes, le redire avec mes mots, etc. Et ensuite, je décide l'opération que je veux faire. Et ensuite, je fais cette opération, ce calcul. Et ensuite, dernière étape à ne jamais oublier, je vérifie que ma réponse, elle fonctionne avec ce que j'avais compris au début. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va souvent observer quand même avec les enfants. Et cette méthode, bah, c'est une méthode qui démontre de l'efficacité, qui en fait soulagerait la mémoire de travail et l'organisation et permettrait aux enfants de libérer de la ressource cognitive pour les étapes qui sont plus difficiles, qui peuvent être de comprendre l'énoncé pour certains enfants ou de faire le calcul pour d'autres en fonction de chacun leur défi à chaque enfant.
C'est aussi rassurant de savoir que on met en place en classe des étapes qui sont validées par la recherche, tu vois. Donc ça c'est un peu rassurant. On dit ok, on fait aussi des bonnes choses en classe parce que ça peut être déstabilisant d'être face à des difficultés. Puis on se questionne, est-ce qu'on fait la bonne chose, etc. Fait que merci de nous rassurer.
Oui, puis en fait juste pour rebondir, la recherche est, en tout cas la vision que j'ai de la recherche. Et certains pourraient me contredire, c'est de trouver premièrement des nouvelles avenues pour résoudre des problèmes, mais c'est aussi des fois d'aller confirmer ou infirmer des choses qui se font de manière naturelle dans les classes, dans les bureaux, et que ce soit en éducation ou dans d'autres domaines. Et en l'occurrence, là, on est parfaitement là-dedans, c'est-à-dire que c'est des choses qui se font dans les classes. Et la recherche, elle est là pour dire, oui, bah, vous faites bien, puisque c'est efficace, ou bah, c'était intuitif, mais finalement, en fait... ça ne fonctionne pas. Et c'est typiquement ce qui s'est produit pour la méthode des mots-clés. C'est quelque chose qui s'est développé de manière intuitive, mais la méthode des mots-clés qui consiste à dire quand il y a donne, tu fais une addition, quand il y a plus, tu fais une addition, quand il y a moins, tu fais une soustraction, bah, dans la recherche, on a des résultats qui nous montrent que c'est non efficace. Parce qu'en fait, c'est 50-50. Donc, c'est efficace à 50%, autant dire que ça ne l'est pas. Donc, c'est aussi ce rôle-là. Donc, oui, dans les classes, évidemment qu'il y a plein de bonnes choses qui se passent. Tant mieux.
Oui. Puis, il y a aussi la manipulation que l'on fait beaucoup. En tout cas, pour la France, je ne sais pas trop, mais pour le Québec, en tout cas, on met beaucoup l'accent sur la manipulation. Puis, pas seulement que pour les petits. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui peut être efficace, j'imagine.
Oui. Alors, la manipulation d'objets, je pense que les enseignants, les orthopédagogues, toutes les personnes qui gravitent autour des enfants qui ont des difficultés en mathématiques, ou en fait qui sont dans un apprentissage en mathématiques, vont plutôt utiliser cette méthode-là. C'est parfois efficace et ça l'est parfois pas. Alors aujourd'hui, ce qu'on sait dans la littérature, c'est que de manière générale, utiliser des objets de manipulation concrets, c'est une pratique probante pour les enfants, pour les adolescents, en développement typique et pour les enfants et les adolescents qui ont un trouble spécifique d'apprentissage en mathématiques, donc autrement dit une dyscalculie. En revanche, quand on va un peu plus dans le détail, par exemple, est-ce que c'est efficace pour la numération? Est-ce que c'est efficace pour le calcul? Est-ce que c'est efficace pour la résolution de problèmes? Là, on tombe sur simplement un manque de données, en tout cas pas suffisamment de données. Pour la résolution de problèmes, on sait que c'est une pratique probante. Là où il reste encore plein de questions, et pour le coup, c'est plutôt, probablement pas rassurant pour les classes, mais rassurant pour le travail de chercheuse, on se pose encore la question, par exemple, parce qu'on n'a pas suffisamment de données, de savoir si c'est plus efficace avec les enfants d'utiliser des objets neutres du type des jetons ou, je ne sais pas comment on appelle ça, là, mais les cercles pour les fractions qui seraient neutres, beiges, d'une couleur unie, versus des objets plus réalistes comme des figurines de petits chats ou des cupcakes, etc., ou des morceaux de pizza avec des pépéronis et des morceaux d'olive dessus pour pouvoir faire des fractions. Donc ça, c'est quelque chose, quand on regarde la littérature, on a finalement assez peu d'études, et quand on les partage, on en a autant qui nous montrent qu'il vaut mieux utiliser des objets neutres que des études qui nous montrent qu'il vaut mieux utiliser des objets réalistes. Donc c'est une question encore en suspens, et pour laquelle il faut être vigilant si on décide d'utiliser des objets, et de se dire, bah, je vais le tester avec cet enfant, et j'adapterai en fonction de, finalement, quel est l'objet qui semble être le plus aidant pour cet enfant. Une méthode particulière qui a été démontrée comme étant efficace quand on utilise des objets, c'est la méthode CRA, pour concret, représentation abstrait. Il y a une revue de littérature qui a été publiée d'ailleurs en 2018 par Book, et qui montre que c'est une pratique probante à utiliser avec les enfants, et qui consiste à passer des objets aux représentations abstraites, donc des dessins, à l'abstrait, vraiment dans cet ordre et dans ce séquencement, plutôt que de mélanger finalement les sources. J'ai des objets sur la table et en même temps je dessine et en même temps j'ai les symboles arabes, indo-arabes. Et donc vraiment que de passer par ce séquencement, ce serait aidant pour les enfants. Et l'interprétation des auteurs sur le sujet, sur le fait que c'est plus aidant de passer par une séquence que d'avoir toutes les représentations en même temps, c'est probablement parce qu'on est face à des enfants en développement dont les fonctions exécutives et le système attentionnel est en développement, et que ça serait une surcharge cognitive de proposer aux enfants à la fois les objets, les représentations visuelles et les symboles arabes, et de faire le lien entre tout ça. Et donc de passer d'un type de représentation à un autre de manière séquentielle, ce serait davantage aidant pour les enfants.
Super, waouh. Et il y aurait une dernière intervention que tu voulais nous parler. Celle-ci, il faut que tu m'expliques un peu plus. Tu disais que c'était la traduction d'énoncé, c'est ça? Mais peux-tu en parler un peu plus?
Oui, donc la dernière dont je voulais vous parler, c'est la traduction de l'énoncé qui est présenté verbalement, avec des mots et des phrases, en ce qu'on appelle les phrases mathématiques, c'est-à-dire les équations. Alors, je ne peux pas vous dire aujourd'hui si c'est une pratique probante, puisqu'on est actuellement dans le fait d'accumuler quelques études, mais on n'en a pas suffisamment pour parler de pratiques probantes ou non. Mais c'est plutôt prometteur. C'est aussi des travaux qui ont été menés par les équipes de Powell ou Fuchs aux USA, et qui consistent à essayer de modéliser l'énoncé de problème en phrases mathématiques. Et donc, je vous en parlais quand je vous parlais il y a quelques minutes de la SBI. Ma situation initiale, Charlotte a 4 billes, plus mon changement, Mohamed lui donne 3 billes, égale ma situation finale. Et donc l'enfant, quand on lui demande d'écrire son équation, ce n'est pas juste écris ton calcul, c'est tu as une phrase mathématique qui est le début plus le changement égale la fin. Et donc de replacer les éléments verbaux, Charlotte a 4 billes, c'est le début, donc je mets mon 4 sur mon petit trait du début de l'opération. Le petit trait du milieu, le plus ou le moins quelque chose, c'est le changement. Donc, qu'est-ce qui est le changement dans mon énoncé? Ben, c'est le fait que Mohamed donne 3 billes. Et qu'est-ce que je cherche? C'est quoi ma question? Ma question, c'est combien de billes Charlotte elle a à la fin, qui est ma situation finale, autrement dit, la fin de l'histoire. Et donc, d'essayer de faire en sorte que l'enfant il transforme les éléments verbaux et numériques de l'énoncé en phrases mathématiques avec ces éléments d'information qui est, par exemple, début plus changement égale fin, bah, ce serait quelque chose qui serait aidant pour les enfants au développement typique et avec un trouble d'apprentissage.
Ok. Fait qu'en fait, on peut l'intégrer avec d'autres modèles, en fait.
Exactement. Exactement.
Ok, je comprends. On parle, c'est notre podcast, le thème de notre podcast, c'est intervention et évaluation. Donc là, on a parlé un peu de l'intervention avec les différentes données probantes et c'était super intéressant. qu'est-ce qu'on peut faire pour comprendre les difficultés en résolution de problèmes lorsqu'il y a un élève qui nous est référé par, généralement, c'est un enseignant ou une enseignante. Est-ce qu'il y a des étapes d'évaluation ou qu'est-ce qu'on peut faire?
Oui, alors déjà, il y a une chose, c'est on va souvent recourir à des tests standardisés pour l'évaluation des mathématiques, mais pour l'évaluation d'un enfant, que ce soit en langage, en lecture, etc. Dans le cas de la résolution de problèmes, c'est un petit peu compliqué. C'est possible, on a des tâches qui existent, qui sont standardisées. Mais c'est évident que ce test standardisé, il va nous permettre de dire, bah oui, cet enfant, il est en difficulté ou il ne l'est pas. Ce que l'enseignant serait capable de dire puisqu'il nous l'a référé. Donc, on n'apporte pas grand-chose de plus que de confirmer l'intuition de l'enseignant qui voit cet élève tous les jours. Par contre, là où le professionnel va être important, c'est d'essayer de comprendre quels sont les mécanismes qui font en sorte que cet enfant soit en difficulté. Et là, on ne va pas pouvoir utiliser des tests standardisés parce qu'on imagine recevoir un enfant qui a 6, 12... 13 ans, 14 ans, etc. Et la résolution de problèmes, c'est une tâche qui est longue. Autant on peut faire lire des mots et on peut en faire lire peut-être 20, 30, 40, on ne pourra pas faire résoudre 40 problèmes à un enfant. Ou alors il va nous détester. Ce n'est peut-être pas ce qu'on cherche. Donc on va aller chercher de l'indice. On ne peut pas avoir une tâche pour chaque étape ou une tâche pour chaque structure mathématique. Ce n'est pas possible. En tout cas, moi, ça ne me paraît pas réaliste avec un jeune qui vient avec des difficultés en plus. Donc, on va avoir plutôt ce que moi, je vais conseiller, c'est d'avoir plutôt une démarche qui est progressive, de partir de problèmes, qui soient d'ailleurs dans des tests standardisés ou non, et de faire varier les modalités ou les aides en fonction de ce qu'on observe. Exemple, vous savez que vous avez affaire à un enfant qui a des difficultés en décodage en lecture, ou vous l'observez pendant le testing. Eh bien, une des possibilités pour aller vérifier ça, c'est d'aller faire quelques problèmes en modalité de lecture et quelques problèmes en modalité orale. Est-ce que sa résolution de problème, elle est bien meilleure à l'oral? Auquel cas, ce n'est pas un problème de problème. C'est un problème de décodage en lecture. Si on est face à un jeune pour lequel on sait ou pour lequel on observe des difficultés de compréhension de langage, par exemple de vocabulaire, et qu'on a mis volontairement dans notre problème des mots un peu difficiles, un exemple, je parle de papaye et de litchi, donc des mots de vocabulaire qui sont a priori pas des fruits qu'on mange tous les jours au Québec. On peut, mais ce n'est pas ceux qu'on cultive au Québec qui sont les plus connus des enfants. Puis finalement, que l'enfant il a du mal à se représenter les choses, il ne se rend pas trop compte de ce que c'est, ben je peux essayer de modifier mon problème et de changer juste ces mots de vocabulaire. Et de parler de pommes et de bananes qui sont a priori, même si les bananes ne sont pas très cultivées au Québec, c'est quand même un fruit qui est fréquent et que les enfants connaissent. Et donc, est-ce qu'à ce moment-là, en modifiant le vocabulaire, en le simplifiant, l'enfant améliore sa résolution de problème? Bah, auquel cas, ça nous donne un indice non seulement de compréhension de ces mécanismes, c'est entre autres, parce qu'il peut y avoir d'autres choses, malheureusement, l'enfant peut accumuler des difficultés, mais les processus de compréhension lexicale qui viennent court-circuiter la résolution de problèmes, mais ça me donne aussi une indication de qu'est-ce que je peux faire pour adapter mes résolutions de problèmes en classe quand je veux que l'enfant résolve des problèmes et qu'il ne soit pas bloqué pour une histoire de vocabulaire. Donc, je peux essayer d'adapter mes énoncés, puis je sais qu'au Québec, il y a toute une discussion sur adaptation, modification. Je ne rentrerai pas dans cette question-là parce que je suis loin d'être une experte. Mais sur le plan cognitif, en tout cas, c'est quelque chose qu'on pourrait essayer d'adapter ou de modifier, je ne sais pas comment dire. Ça peut être la même chose sur la syntaxe. Dans les problèmes, on va avoir des fois des phrases longues ou des phrases avec des enchâssés, des qui, des quoi, des que, des dons, des pronoms, des propositions, pardon, de coordination qui sont difficile pour les enfants, ben est-ce que si je fais des phrases simples, sujet, verbe, complément, que je respecte un ordre de phrase plutôt canonique, est-ce que ça simplifie la résolution du problème? Et auquel cas, je peux faire faire des mathématiques à l'enfant si je modifie ça. On peut avoir le même raisonnement avec je reçois un jeune et je sais qu'il a des difficultés de type représentation des nombres, donc plutôt associé à une dyscalculie, ou je l'observe pendant mes premières résolutions de problèmes. Mais je peux essayer de proposer quelques problèmes avec des nombres qui sont beaucoup plus simples. Au lieu d'avoir des nombres comme je sais pas moi, 128, 424, 35, 75, bah faire exactement les mêmes problèmes, mais avec des nombres en dessous de 20 ou en dessous de 10 même. Et est-ce que là, l'enfant, il arrive à extraire la structure? Est-ce qu'il arrive à trouver le calcul? Et donc, est-ce qu'il arrive à le résoudre? Imaginons que j'ai un enfant, et c'est fréquent, avec une très forte anxiété mathématique. C'est particulièrement fréquent chez les petites filles, malheureusement, pour tout un tas de raisons, à mon avis, sociales, mais je ne développerai pas là-dessus. Je suis face à un jeune ou une jeune fille qui a une anxiété massive, qui vient pour de la résolution de problèmes, et il faut que je lui fasse faire de la résolution de problèmes. Bah, plutôt que de lui demander de tout faire, on peut lui demander, par exemple, de me dire l'opération que cet enfant aimerait faire. Et puis, on fera l'opération. Ce qui va nous permettre, par exemple, de faire la part des choses entre cet enfant, il a des difficultés à faire un calcul, versus il a des difficultés à raisonner. Si l'enfant, il arrive à nous dire, bah oui, moi, je veux faire 28 plus 54, c'est ça le calcul qu'il faudrait faire, et que c'est juste, évidemment, bah, je peux me dire que les difficultés, elles ne sont pas de l'ordre de la compréhension de l'énoncé et de la planification des actions, et qu'elles seraient plutôt de l'ordre du calcul, par exemple. Une dernière chose dont j'aimerais vous parler, c'est quelque chose qui est important, c'est la reformulation. Demander à l'enfant de reformuler avec ses propres mots, c'est une mesure qui est valide pour mesurer la compréhension et l'extraction de la structure du problème. Alors, c'est peut-être moins vrai chez les enfants qui ont un trouble du langage. Je dis peut-être parce que c'est intuitif ce que je dis là, parce que ça n'a jamais été démontré. Mais en tout cas, chez les enfants sans trouble du langage, c'est une mesure qui est valide et qui va nous permettre de se dire bon, bah, cet enfant, il a compris l'énoncé, et s'il n'arrive pas à faire le calcul, c'est pas une question de compréhension en tant que telle. Ça peut être une question d'extraction de la structure ou de recourir à des problèmes, d'autres problèmes que l'enfant a fait et d'appliquer la même stratégie, ou l'anxiété de faire un calcul. Il peut y avoir plein d'autres choses, mais en tout cas, si la reformulation est juste, on peut se dire que la compréhension est bonne. Donc, globalement, pour conclure sur cette évaluation, pour ma part, ça ne me semble pas réaliste de faire une tâche, une structure mathématique ou une tâche, une étape de résolution de problème, mais d'aller chercher à décortiquer qu'est-ce qui, dans une, deux, trois problèmes résolus par l'enfant, nous semble être une difficulté, et de modifier les énoncés ou modifier les modalités pour aller chercher de l'information sur les processus qui sont en jeu et qui sont des défis pour cet enfant-là.
C'est là où on voit le travail de collaboration entre l'orthopédagogue et l'enseignante, parce que ce travail-là, justement, d'aller, pas isoler, mais d'identifier qu'est-ce qui pourrait bloquer, peut se faire avec l'orthopédagogue, et après voir en classe comment mettre des adaptations avec l'enseignante, etc. Et je trouve, ou l'enseignant ou l'enseignante. Donc, je trouve que c'est... ça met en valeur aussi un travail sous-jacent de collaboration, et je trouve ça super intéressant, justement. Ce n'est pas juste deux professionnels, chacun dans leur classe, tu sais, ça solidifie encore un lien.
Complètement, et surtout, tout ce travail qui peut se faire en individuel, et je trouve ça difficile pour un enseignant ou une enseignante de le réaliser, puisque personne, elle a le défi d'avoir 20, 25, 30 élèves dans sa classe. Ce que peut faire un professionnel dans son bureau en individuel. Et inversement, bah, l'adaptation, ça ne peut se faire qu'en classe. Et pour moi, le rôle du professionnel qui va évaluer l'enfant, c'est pas simplement de confirmer ce que l'enseignant, il sait déjà. Cet élève, il est en difficulté. Quand on vient juste avec, oui, il est sous le percentile 10, moi, je comprends l'enseignant qui me dirait, je le savais déjà. qu'est-ce que ça m'apporte. Je pense que quand un enseignant y réfère à un professionnel, c'est pour essayer de comprendre davantage qu'est-ce qui est en difficulté et comment je peux aider cet élève dans ma classe. Donc, davantage intéressant, à mon avis, de décortiquer les étapes, les problématiques de cet élève, que de confirmer par un score qu'il est effectivement en difficulté.
Tout à fait, super, super intéressant. Merci, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'avoir été notre invité. C'était vraiment très intéressant et riche d'informations. Je suis sûre que tout le monde va aller regarder après dans les commentaires les références et voir et améliorer notre pratique parce que c'est ça le but aussi. Donc, merci beaucoup pour cette richesse d'informations que tu nous as apportées.
Merci beaucoup pour l'invitation, ça m'a fait plaisir.
Le balado Micro ouvert sur l'orthopédagogie est une production de Lucille Denis et Christelle El Akhoury en collaboration avec l'Association des orthopédagogues du Québec.
Vous avez aimé cet épisode? Vous souhaitez laisser un commentaire? Écrivez-nous sur notre page Instagram micro.orthopédagogie ou sur votre plateforme d'écoute préférée.